Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de Contact. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Zone de Contact est votre nouvelle émission qui vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat de la géopolitique mondiale. Au menu de cette émission, la question de l'Ukraine qui s'immisce dans le sommet du G20 de Bali, l'Afrique qui s'oppose à une résolution anti-russe aux Nations Unies et l'Union Européenne qui n'est pas prête à imposer un 9e paquet de sanctions à la Russie. L'Europe commence-t-elle à se lasser de l'Ukraine? L'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic nous donnera son analyse. Nous écouterons le docteur Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, qui commentera les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Le spécialiste en géopolitique Adama Diabaté analysera l'opération Barkhane qui a touché à sa fin. On démarre cette revue de presse par Le Figaro qui rapporte que mettre fin au conflit en Ukraine est le meilleur moyen de redresser l'économie mondiale selon Washington. En marge du sommet du G20, la secrétaire américaine du Trésor Janet Yellen aurait tenu à faire passer ce message suite à une rencontre avec le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Pourquoi une telle rhétorique? Les sanctions prises contre la Russie par l'Occident ont eu un effet boomerang avec une envolée des prix alimentaires et de l'énergie. Un comble quand celle-ci avait pour but initial de mettre à genoux Moscou. Si la question ukrainienne n'est pas officiellement à l'agenda, elle apparaît pourtant en fond de ce sommet. Volodymyr Zelensky y participera par visioconférence. L'Ukraine, par l'intermédiaire de son parlement, la Rada, a appelé à exclure la Russie du G20, mais cet appel se heurte à la réalité géopolitique. Si les États-Unis sont favorables à cette mesure, ce n'est pas le cas de la Chine, du Brésil et de l'Inde qui se sont exprimés contre. Quant à la Russie, elle est représentée au sommet par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. La présence du chef de la diplomatie russe a par ailleurs été la source d'une fake news. Le 14 novembre, les médias américains ont annoncé que Sergueï Lavrov était hospitalisé à Bali suite à des problèmes de santé. Cependant, cette information a été rapidement démentie par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Elle a filmé le ministre russe qui était assis sur une chaise, décontracté et en parfaite santé. Zakharova a souhaité aux journalistes occidentaux d'être plus honnêtes et d'écrire plus souvent la vérité. Pour Lavrov, ces méthodes ne sont pas une surprise. Le ministre a rappelé que ce jeu n'était pas nouveau dans la politique. Le contexte international tendu a fait oublier le but de ce sommet. Chaque année, des sommets se tiennent afin d'établir un diagnostic sur la situation économique mondiale afin de proposer une stratégie globale et de coordonner les efforts de chaque pays et d'autres organisations internationales comme le FMI. Avant ce sommet, un fonds de 1,4 milliard de dollars avait été mis en place afin de se préparer aux futures pandémies. Cependant, le président indonésien Joko Widodo a estimé que le financement de ce fonds était insuffisant et qu'il faudrait 31 milliards de dollars pour être prêt à affronter les prochaines pandémies. On poursuit avec cette nouvelle qui nous vient de l'ONU. Un projet de résolution portant sur les réparations payées par la Russie à l'Ukraine a été présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 novembre. Les pays africains se sont montrés solidaires vis-à-vis de la Russie lors du vote. La République centrafricaine, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali et le Zimbabwe ont voté contre la résolution anti-russe. 27 autres pays africains dont l'Algérie, le Burundi, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont préféré s'abstenir. Toutefois, la résolution a été adoptée. Pour le représentant permanent russe auprès de l'ONU, Vassili Nebensia, le document vise à autoriser l'accès aux fonds souverains russes d'une valeur estimée à des centaines de milliards de dollars qui ont été volés à Moscou. Cet argent russe avait été bloqué par les banques occidentales. Pour rappel, en février 2022, les réserves internationales de la Russie représentaient 643 milliards de dollars. Suite aux sanctions occidentales prises contre la Russie, le montant des avoirs gelés est estimé à plus de 300 milliards de dollars par la Commission européenne. Cette impression de pillage légalisé est partagée par l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Il a invité l'Assemblée générale à adopter une recommandation similaire sur les réparations américaines pour la Corée, le Vietnam, l'Irak ou la Yougoslavie. On poursuit avec Josep Borrell qui a annoncé le 14 octobre que l'Union européenne n'était pas pour le moment prête à imposer de nouvelles sanctions contre Moscou. Il a expliqué à un journaliste que les propositions de sanctions sont faites par les États avant d'être étudiées et adoptées. il a assuré que l'UE n'a pas arrêté son travail sur ce dossier. Il faut noter que les 27 sont loin de tomber d'accord sur cette question. La Pologne, l'Irlande et les Pays-Baltes souhaitent introduire des sanctions sur les diamants russes, mais doivent se heurter au refus de la Belgique. L'industrie du diamant représente 5% de ses exportations et emploie 30 000 personnes. Il faut ajouter à cela le World Diamond Centre d'Anvers, qui est le plus grand centre de commerce de diamants dans le monde. En cas de sanction, celui-ci perdrait 30% de son chiffre d'affaires et cela profiterait à d'autres pays qui n'imposeraient pas de sanctions sur les diamants russes. Au niveau gouvernemental, le Premier ministre belge Alexander De Croo a estimé en septembre dernier que les sanctions sur les diamants russes représenteraient une grosse perte pour son pays. L'autre point de discorde porte sur le pétrole. La Grèce, qui dispose d'une importante flotte de bateaux, ne souhaite pas arrêter le transport de pétrole car cette activité est une des plus lucratives pour Athènes. Une interdiction de celle-ci porterait un coup trop dur à son économie, déjà fortement mise à mal par les différents plans d'austérité imposés à Athènes depuis 2010. Enfin, impossible de trouver un consensus chez les 27 pour sanctionner l'uranium russe. La France, la Slovaquie, la Hongrie et la Finlande dépendent des exportations russes d'uranium pour faire fonctionner leurs centrales nucléaires. L'Allemagne a tenté d'amener sur la table des négociations l'interdiction de l'uranium russe sans succès. En cas d'interdiction d'importation de celui-ci, la capacité de production d'électricité en sera impactée pour les pays qui en sont dépendants. Outre les sanctions anti-russes, les désaccords portent également sur le financement accordé à l'UE par l'Ukraine. La Hongrie mène la fronde sur le financement du plan d'aide de 18 milliards d'euros promis à Kiev par Bruxelles. Assiste-t-on à un épuisement des Européens vis-à-vis de l'Ukraine ? Pour parler plus en détail de ce sujet, l'essayiste franco-serbe Nicolas Mirković nous rejoint sur Zone de Contact. Bonjour Nicolas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Les pays européens n'arrivent pas à s'accorder sur un nouveau financement pour l'Ukraine. Budapest a bloqué le nouveau plan d'aide de l'UE. Aux États-Unis, les républicains sont aussi critiques à l'égard d'un nouveau financement. Peut-on parler d'une certaine fatigue qui s'installe chez les alliés de Kiev ?
Oui, tout à fait, d'autant plus que nous parlons de sommes conséquentes. Les États-Unis ont déjà versé plusieurs dizaines de milliards de dollars. L'Union européenne est en train d'essayer de monter 18 milliards de dollars qui viennent s'ajouter déjà à des dons substantiels du FMI. Cela coûte très cher durant une situation où l'Europe, les pays atlantistes, vont très mal. L'inflation dépasse les 10% dans la plupart des pays de l'Union européenne. Les États-Unis ne sont pas loin d'une inflation également à 2 points. Il y a des problèmes économiques d'approvisionnement très importants. Et beaucoup de personnes se demandent quelle est l'utilité de ces fonds, puisque la guerre continue. Et ils ne sont pas certains que cet argent va aider à amener la fin de la guerre. Et les personnes se disent, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, il serait temps d'arrêter le financement, ou en tout cas de revoir le financement, ou de le lier à l'obligation de Kiev de négocier quelque chose, quoi. Kiev et Moscou, certainement.
Les républicains ont menacé de demander à Kiev qu'elle montre où elle a dépensé chaque dollar de l'aide. Pensez-vous que c'est vraiment possible ou ce sont juste de simples menaces en l'air ?
Ça serait mission impossible parce qu'on sait que Kiev est un pays qui est corrompu. C'est un des problèmes, ce n'est pas nouveau. Hein, l'Ukraine a été corrompue dès 1991. On le sait, c'est encore le cas aujourd'hui. Et on sait que cet argent, on ne sait pas exactement où va cet argent. Donc ça serait mission impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui donnent l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'argent du contribuable américain, français, espagnol, italien, etc., veulent savoir où va cet argent, à quoi est-ce qu'il va servir. On entend parler de corruption, on sait qu'il y a des armes qui sont envoyées en Ukraine qui se retrouvent sur le marché noir, qui peuvent se retrouver dans d'autres pays européens. On ne sait pas dans quelles mains cela va se terminer. Beaucoup d'experts le disent depuis le départ. Et aux États-Unis, on a en effet vu plusieurs républicains très vindicatifs sur ce sujet, dire qu'il fallait à tout prix arrêter de financer la guerre en Ukraine. J'ai même vu une candidate qui disait que les États-Unis ne savaient pas protéger, faisaient tout pour protéger les frontières de l'Ukraine, alors qu'ils pouvaient pas protéger leurs propres frontières. Les Américains, il y a chez les républicains une vague qui est historique chez les Américains d'isolationnisme. Je pense qu'il a été de nouveau relancé par Donald Trump avec une frange, c'est pas tous les républicains, mais une frange des républicains qui se disent qu'il faut que l'argent que les Américains impriment serve essentiellement d'abord à les Américains. Ce n'est pas le cas de tous les républicains, mais ça a clairement pesé sur la campagne et on verra les résultats, puisque 48 heures après les élections de la plus grande démocratie du monde, bien sûr, nous n'avons toujours pas les résultats. Mais ça va être intéressant. Si les républicains gagnent en effet une des deux chambres ou les deux, on peut imaginer que ça va être beaucoup plus difficile pour Biden de faire passer des grands budgets pour la guerre en Ukraine.
Des médias US, comme le Washington Post, affirment que Washington pousse Kiev à négocier avec les Russes. Des informations à prendre au sérieux ou pas? Car il semblerait que Washington ne fait que pousser Kiev à l'escalade.
Oui, alors oui, c'est à prendre au sérieux. Hein. Tout ce qui sort du Washington Post et du New York Times est très proche du pouvoir et tout est calculé. Il peut y avoir des chroniques parfois qui sont extrêmement indépendantes, ça c'est... mais il faut prendre ça au sérieux, d'autant plus que ce n'est pas qu'un seul article. Il y a quand même beaucoup de personnes au sein même de l'administration américaine, et ce depuis le début de la guerre, mais on les entend un peu plus aujourd'hui, qui voit que ça va être compliqué, que la situation en Ukraine va être compliquée. Malgré l'aide, il n'est pas certain que l'Ukraine gagne, même si elle peut avoir des victoires militaires en ce moment, il n'est pas certain que l'Ukraine gagne à long terme et que ça peut entraîner le reste de l'Europe dans une crise majeure et que les États-Unis en plus n'auront peut-être pas, comme on le disait il y a quelques instants, les moyens de continuer cet effort. Ils se disent peut-être que maintenant serait un bon moment de négocier. Je pense que ce qu'ils se disent, c'est que certains ont peur que la Russie puisse gagner. Et si la Russie gagne, elle peut aller au-delà de ce qu'elle a aujourd'hui en termes de gains territoriaux. Et que peut-être qu'il vaut mieux négocier maintenant et limiter les gains territoriaux pour la Russie. Je pense que certains se disent ça. Et d'autres se disent aussi, de toute manière, la situation peut escalader. Cette guerre peut dégénérer. Le monde est très tendu. Donc il vaut peut-être mieux essayer de négocier une paix maintenant, d'autant plus que l'hiver va arriver dans quelques semaines, qu'on ne sait pas où est-ce que l'Europe va s'approvisionner en hydrocarbures. La situation mondiale est tendue, donc on sent, et c'est plutôt intéressant, qu'il y a au sein d'une partie de l'administration, et je dirais, je pense même, au sein du Pentagone, plus que la Maison-Blanche, des Américains qui se disent que maintenant il faut arrêter avant que cela devienne mondial, voire même nucléaire.
En ce qui concerne le conflit ukrainien, l'armée russe a annoncé son retrait de la rive droite du Dniepr et de la ville de Kherson. Des analystes considèrent cette manœuvre russe comme une embuscade préparée pour Kiev. Qu'en pensez-vous? Et comment évaluez-vous la situation actuelle en Ukraine?
Alors, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête des militaires russes depuis le début du conflit. Il y a un nouveau chef à la tête de l'armée depuis quelques semaines, le général Sourovikine, qui a été nommé pour mettre en place une stratégie qui, visiblement, n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Quel est son projet sur Kherson? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'en apparence, de toute manière, d'un point de vue purement immédiat, cela a l'apparence d'une défaite militaire et politique pour la Russie, puisque Kherson a été déclaré officiellement ville russe il y a quelques semaines par la Douma, et ça a été signé par Vladimir Poutine. Donc ça veut dire que la Russie a perdu du territoire officiellement. Après, dans une guerre, beaucoup de choses peuvent arriver. À Stalingrad, les forces russes ou soviétiques, à l'époque, ont reculé. Elles ont fini par gagner. Aujourd'hui, vous savez, je dis toujours en ce moment, on sait qui a gagné la guerre seulement quand celle-ci est terminée. Donc, quel est le projet de l'armée russe maintenant? Est-ce que c'est une embuscade? Est-ce que c'est pour réallouer des forces ailleurs? Est-ce que c'est une gestion des priorités? Est-ce que c'est une gestion du temps en attendant que l'hiver arrive, en attendant que les nouvelles recrues arrive, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'à très court terme, comme ça, c'est une défaite. Ça fait mal à la Russie. Ça fait mal, je pense, pour les soldats qui sont morts pour Kherson. Mais ce que dit l'armée russe, c'est que c'était indispensable parce qu'avec les 20 000 hommes dire, la rive droite du Dniepr, il n'était pas possible de tenir cette position et qu'a priori c'est une décision difficile, mais une décision qui est muée par la sagesse de la situation. Donc il faut voir. Il faut voir. Ce qui est certain, c'est que je ne pense absolument pas que la Russie puisse abandonner Kherson, qui est une ville qui a été créée par Catherine II, qui est une ville qui a été créée par les Russes, qui est une ville qui a été réunifié ou annexé, selon le terme que vous voulez prendre, il y a quelques semaines. Je ne vois pas Moscou abandonner Kherson à moyen long terme.
Merci pour vos réponses pertinentes. C'était Nicolas Mirkovic, essayiste franco-serbe sur Zone de Contact pour Sputnik Afrique. Vous êtes à l'écoute de Zone de Contact sur Sputnik Afrique. Nous venons d'écouter l'analyste français Nicolas Mirkovic. On continue, ne quittez pas. Du rififi entre Paris et Ankara sur l'Afrique. Emmanuel Macron s'est attiré les foudres du parti présidentiel turc. Il avait accusé la Turquie, la Chine et la Russie de disposer d'un agenda d'influence néocolonial et impérialiste sur le continent africain. Omer Selik, porte-parole du Parti de la Justice et du Développement, le AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, n'a pas tardé à lui répondre. Pour Selik, Macron a commis une erreur et doit s'excuser auprès de la nation turque pour cela. Il a ensuite enfoncé le clou en rappelant le passé colonial de la France en Afrique qui a infligé un lourd tribut aux Africains et qui perdure encore aujourd'hui. Pour Zone de Contact, le docteur Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, se penche sur les dessous de cette passe d'armes entre la Turquie et la France. Macron a accusé la Russie, la Turquie et la Chine d'impérialisme en Afrique. Que cherche-t-il avec ces accusations? La France, dont l'armée est toujours installée sur le sol africain, ne fait-elle pas, elle-même, du néocolonialisme?
Personnellement, moi, je crois que la France accuse, en accusant la Russie et la Turquie d'impérialisme, c'est une erreur de jugement. Et Macron, en disant cela, veut jouer sur l'opinion publique française d'abord, et après l'opinion publique de la sous-région. Il faut se le dire, il y a en Afrique, dans certains milieux francophones, ou francophiles, si on peut le dire, certaines personnes qui pensent toujours que la France a raison dans ses stratégies en Afrique. La France a, si on peut dire, le messie. La France joue le rôle de messie. Donc, la France, en parlant ainsi, veut jouer un peu sur la corde sensible de ces personnes. Mais il faut se dire, en réalité, que le modèle de coopération française en général a échoué. Et l'alternative que la Russie, la Turquie, la Chine, l'Inde veulent proposer à l'Afrique, c'est une sorte de menace ouverte par rapport aux intérêts français en Afrique. Le monopole, c'est le mode d'action de la France. Monopoliser un peu l'Afrique, au plan de vue économique et stratégique, c'est son mode d'action. On ne peut pas l'en vouloir. C'est une puissance qui veut se maintenir sur un pré carré. Mais il faudrait que la France se dise que les Africains ont changé. Ce n'est pas les Africains des années 60, nos grands-parents qui n'avaient pas accès à l'Internet ou autre, mais la jeunesse africaine est ouverte actuellement sur le monde. La jeunesse africaine est beaucoup plus instruite par rapport aux années 60. Donc cette courbe de changement d'idées par rapport à la France va continuer dans la société civile africaine. Beaucoup se disent que ce n'est pas seulement les Français qui doivent venir en Afrique, il doit y avoir les Chinois, il doit y avoir les Pakistanais, il doit y avoir les Turcs.
La fin officielle de l'opération Barkhane a été annoncée. Comment les pays africains concernés, et notamment le Mali, le perçoivent? Quel bilan doit être tiré?
L'opération Barkhane, il faut d'abord situer le contexte dans lequel cette opération a été mise en place. C'est la, on peut dire, la fille tardive de la succession de l'opération Serval. L'opération Serval qui a été déclarée en 2013 pour contrecarrer effectivement la horde djihadiste qui avançait vers Bamako à l'époque. Les Maliens croyaient en ce temps que c'était une opération ponctuelle et on ne s'était pas imaginé à l'époque que ça allait durer dans le temps. Et 9 ans après, les gens voient que rien n'a changé, pourvu que ça n'a pas envenimer la situation. Il n'y a pas eu de retombées réelles en termes de sécurisation des territoires concernés, notamment le centre et le septentrion malien. D'ailleurs, sous l'opération Barkhane, on a vu une explosion des attaques djihadistes dans les pays limitrophes du Mali. Donc, le constat est amer, c'est un constat d'échec, mais ça dénote aussi du modèle de coopération militaire française et occidentale qui peut être un peu identifié au modèle américain en Afghanistan et en Irak, qui ont tous deux échoué. Et un modèle d'emprunt de dictat, de supériorité de la France par rapport aux pays africains. Et moi, je crois que, quand même, du moins, ce modèle ne peut pas persévérer en l'état actuel des choses.
Paris laisse entendre être toujours intéressé par l'Afrique malgré la fin de l'opération Barkhane. Comment la stratégie française en Afrique peut-elle évoluer selon vous ?
Alors, la stratégie française, il faut se dire que ce n'est pas une stratégie qui est visible actuellement. Le président Macron, dans son discours, a parlé de 6 mois, mais je crois qu'avec la présentation de la revue stratégique française à Toulon hier, je crois que la France s'est déjà fait une idée de ce qu'elle veut en Afrique ou de ce qu'elle va faire. C'est ça le problème à la France, c'est que la France suit d'avoir ses propres intérêts et vient les soumettre, pas les soumettre, vient les imposer aux pays africains. C'est ça le problème. Maintenant, dans 6 mois, la France veut discuter avec les pays partenaires et elle voudrait procéder au cas par cas, selon les besoins. Par exemple, je prends un exemple, un pays comme le Sénégal et un pays comme le Mali n'ont pas les mêmes besoins de coopération en termes de coopération militaire et stratégique. Maintenant, la France, je crois, au Mali, de par ce qu'elle a fait comme mea culpa, en termes d'influence, la France était absente, la France va s'impliquer de plus en plus. Il y a tout à penser que la France va s'impliquer de plus en plus dans les milieux sociopolitiques et économiques, notamment en jouant beaucoup sur ces cartes de présence au niveau de la société civile, de la société des jeunes et des groupes d'ordre économique. Donc l'influence va passer pas par le sommet de l'État, mais par le bas de l'État, par le bas de l'échelle. Donc moi je crois que cela sera un peu renforcé par une présence en termes opérationnels et militaires, une présence des forces spéciales françaises. Mais le gros du tout va se retirer, la France sera moins visible, il y aura des opérations de renseignement et comme Macron lui-même l'a dit dans son discours, il y aura une intimité stratégique. Qui dit intimité stratégique dit un retour en arrière par rapport à la diplomatie secrète de la France, des accords secrets et puis les opérations secrètes du renseignement humain et technique. Donc cela va désavantager encore la France et la vision que l'opinion publique fait par rapport à la France en Afrique.
Le Mali a été le premier pays à avoir rejeté avec force la présence militaire française. Bamako a donné en quelque sorte l'exemple aux pays voisins. Pourquoi le Mali ? Comment expliqueriez-vous ce phénomène malien ?
Alors, ce phénomène malien, on peut le décrire de deux manières. Il y a d'abord ce que perçoit l'opinion publique malienne, cette opinion publique qui a assisté, si on peut dire, impuissante, la chute de Kadhafi, si on peut dire l'assassinat de Kadhafi programmé par l'OTAN, la France, l'Italie et les États-Unis, alors que ce Kadhafi était vu par l'opinion publique, notamment la jeunesse africaine. Il ne faut pas oublier que la jeunesse dans ce pays compose pratiquement 70% de la population. Voyant Kadhafi, un fils d'Afrique se dirigeant, là, qui aidait beaucoup les pays africains de façon économique et financière, et qui a été sauvagement assassiné en direct à la télé, filmé, tout. Donc il y a eu cette prise de conscience dès l'époque que la France et les pays de l'OTAN avaient des comportements impérialistes, avaient des comportements qui visaient à subjuguer, à maintenir leur grippe, si on peut le dire, d'une main de fer, à maintenir leur présence en Afrique, que ce soit par des moyens économiques et militaires. Au-delà de ça, il y a aussi dans cette opinion publique une sorte de perception de la France comme étant partenaire privilégié. La France qui jouit d'une plus grande privilège d'un plus grand privilège, du moins, c'est par rapport à des pays comme la Chine et la Russie, alors que la France, effectivement, en termes d'investissement, n'en fait pas autant que la Chine, que le ferait la Chine, par exemple. La France, en termes de coopération militaire, ne bénéficie pas autant que la Russie en termes de vente d'armement et autres. Donc, les gens ont vu, notamment avec l'ex-président Ibeka, qu'il y avait une sorte de part Berlin, une sorte de tapis rouge déroulé devant les Français. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors, je crois que ça a amené l'opinion publique à se rebeller un peu contre la France. Au-delà de cela, après les événements de mars 2020 qui ont abouti à la chute d'Ibeka, on a vu une sorte d'implication de la France sur le plan sous-régional, notamment avec la CEDEAO et autres, pour pouvoir, si on peut dire, piétiner un peu la volonté populaire qui surgissait à l'époque au Mali.
Pensez-vous que c'est la politique considérée par certains comme néocoloniale qui pèse sur les Africains aujourd'hui et qui est la cause du sentiment anti-français grandissant chez les Africains ?
Il y a une partie de cela. Il y a en gros, il y a une perception selon laquelle la France se comporte comme étant une puissance colonisatrice, néocoloniale, s'il faut se référer au contexte actuel, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la France domine au plan de vue économique le terrain en Afrique, au plan de vue militaire, elle domine aussi. Donc, il n'y a pas de retombée en termes de développement des pays africains. Donc, beaucoup se disent pourquoi rester derrière la France ou rester amis privilégiés avec la France dans ce carcan diplomatique et de coopération, alors qu'il n'y a pas de retombée. La France, le problème, c'est que la France veut faire table rase. La France veut s'imposer d'une manière que elle oblige les dirigeants de ces pays de la sous-région du Sahel à ne pas s'orienter vers d'autres puissances. Ça se fait de façon ouverte ou de façon civiline. Un partenaire avec la Russie n'est pas bien vu par la France. Cela n'est caché à personne. Donc la société est en train de prendre conscience de cela et ça a un élan néocolonial, il faut le dire.
Les appels téléphoniques entre Poutine et Goïta se multiplient. Comment cela est perçu au Mali et comment analyseriez-vous ce rapprochement ?
Ce rapprochement est stratégique et ça dénote de la volonté de la transition malienne à diversifier ses partenariats, surtout sur le plan militaire. Et le discours de Macron d'hier à Toulon l'a dit et l'a redit, l'opération Barkhane, c'est un constat d'échec. Parce que la France, le modèle de coopération militaire que la France propose aux pays africains, notamment au Mali, n'est pas du tout viable, notamment à travers le G5 Sahel, à travers la CEDEAO, à travers la structure sécuritaire-militaire de la CEDEAO. La France n'est pas à même de proposer quelque chose d'endogène par rapport aux problématiques africaines. Donc, on peut dire que ce côté de la Russie qui donne une plus grande largesse et une plus grande autonomie aux pays africains en termes de collaboration d'égal à égal, de partenariat gagnant-gagnant, est plus adapté à la situation de crise malienne actuelle. Ce n'est pas seulement la Russie. Le Mali se tourne aussi vers les pays de l'Afrique, l'Algérie, l'Ouganda, la Turquie en termes de défense et de coopération sécuritaire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Le Mali va continuer dans ce sens. Mais il y a un petit bémol, notamment en termes de concrétisation et de poursuite de cette coopération avec la Russie dans le temps. Il ne faut pas que la Russie aussi s'arrête seulement à coopérer ou à être plus proche du Mali dans des circonstances de transition, mais il va falloir que la Russie ait une politique africaine de longue durée et qui se structure par rapport à un régime élu et pérenne. Donc cela est une dichotomie que beaucoup d'Africains, que beaucoup d'analystes comme moi au Mali ici se posent.
Sur fond de la dernière visite d'amitié et de travail du président de transition burkinabé au Mali, quels sont les enjeux géopolitiques pour la région ?
Les enjeux géopolitiques sont énormes parce que actuellement il se trouve que le Mali est l'épicentre du phénomène djihadiste. À travers le Mali, beaucoup de pays environnants ont été touchés, notamment le Burkina Faso. les attaques au Burkina Faso ont augmenté considérablement par rapport au Mali, avec le coup d'État et l'instabilité politique dans les deux pays, et notamment la sortie du Mali, ou si je peux dire le rejet de G5 Sahel, qui était l'organisation sous-régionale et sécuritaire de la zone du Sahel. Le Burkina, le Mali gagne beaucoup à se rapprocher, parce qu'il faut pas oublier que le Burkina, le Mali, dans le cadre du G5 Sahel, avait initié beaucoup d'opérations, notamment dans la zone du Liptako-Gourma, la zone des trois frontières qu'on appelle le Mali, le Niger et le Burkina. Le Mali partage 1000 km² de frontières avec le Burkina, donc une grande étendue de territoire qui est illimitrisée, où il y a des forêts, des grandes étendues de forêts dans lesquelles les djihadistes se cachent. Donc le voyage de Damiba avait un ordre politique parce que, le président de la transition actuelle, Captain Ibrahima Traoré, avait un objectif politique, se rapprocher d'un pays voisin qui est dans la même situation d'instabilité que lui et qui est sous les sanctions, les deux pays sont sous les sanctions des organisations sous-régionales et internationales. Donc ces rapprochements va consister à être un bouffet d'oxygène pour eux afin de raccorder un peu leur violon. Sur le plan militaire, ils ont parlé très prochainement de la mise en place des patrouilles fortes.
Comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait rendre la lutte antiterroriste efficace selon vous?
En grosso modo, il va falloir que les pays du Sahel aient les moyens de subvenir à leurs besoins stratégiques et sécuritaires. Ces moyens sont d'ordre économique. Il faut un embonpoint économique de ces pays, une autonomie économique. Il faut que ces pays sortent de l'économie rentière, l'économie impérialiste, qui a été programmée depuis les indépendances, selon laquelle ces pays doivent seulement fournir de la matière première au monde entier, et sans plus-value, ces pays s'appauvrissent de plus en plus. Donc du coup, ils ne peuvent pas du tout subvenir à leurs besoins sécuritaires. La sécurité, ça coûte de l'argent. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres phénomènes, notamment les phénomènes endogènes, les clivages ethniques et d'ordre intercommunautaire. Il va falloir qu'il y ait une sorte de politique nationale, de dialogue entre ces communautés. Il faut que l'État s'implique davantage dans ces zones. En plus de cela, il va falloir qu'il y ait une refonte de l'armée et des outils de sécurité nationale de ces pays, notamment au Mali. L'armée est un grand corps malade au Mali. Il y a un effectif pléthorique, il y a aussi une inconsistance de l'effectif. Donc il va falloir faire une réorganisation de l'armée en termes d'effectifs et de matériel. Et aussi, il ne faut pas oublier le changement climatique. Beaucoup de ce problème, une grande partie de ce problème d'insécurité au Sahel est due au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, à lui aussi, est causé en grande partie, à 80%, par les pays développés, notamment la Chine, les États-Unis et l'Inde. Il va falloir aussi qu'il y ait des politiques endogènes, des politiques, je peux dire, acclimatées, qui permettront d'atténuer un peu l'impact du réchauffement climatique sur la population rurale. À cela ne tienne, il va falloir aussi une coopération au sein d'une institution sous-régionale en termes de sécurité entre les pays, qui va inclure cette fois-ci, pas sur le modèle du G7 Sahel, mais qui va inclure cette fois-ci l'Algérie, la Mauritanie, et la Côte d'Ivoire et le Sénégal, d'autres pays qu'on a exclus du G5 Sahel. Notamment, cela a procédé d'une volonté française d'exclure ces pays, on ne sait pas pourquoi.
Je remercie le professeur Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, pour ses analyses. Chers auditeurs, le moment est venu de faire une pause. Mais rassurez-vous, nous revenons très vite avec Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique. Il va revenir sur Zone de Contact, sur la fin récente du décanat accordé par la Centrafrique à la France. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique, vous êtes bien à l'écoute de Zone de Contact. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour ce dernier round, on va rester au Mali. Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de gestion et directeur adjoint à l'Institut universitaire pour le développement territorial au Mali, s'est confié à notre journaliste sur la fin de l'opération Barkhane et sur la fin récente du décanat accordé par la Centrafrique à la France. On l'écoute tout de suite.
Merci beaucoup pour votre interview. Notre première question, c'est sur la fin officielle de l'opération Barkhane qui a été annoncée. Et comment les pays africains concernés, notamment le Mali, le perçoivent? Quel bilan doit être tiré?
Merci beaucoup pour votre question, Madame Yulia. Et la fin de Barkhane, en fait, pour nous Africains, qui sommes déjà habitués à ces histoires, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que c'est un événement juste pour l'effet d'annonce, parce que c'est un changement de nom plutôt qu'un vrai changement. Parce que la France n'a pas, comme j'ai dit très souvent dans différentes interviews ici en Afrique, que la France est partie pour rester. La France n'ira nulle part, faut que les Africains se détrompent. Et comme on dit bien en Afrique ici, bon, en blaguant, on dit macroné, c'est-à-dire... chaque fois qu'il y a un problème, il s'agit d'un débat. Et ce problème sera considéré comme déjà solutionné. Donc, ça veut dire que si vous demandez notre attitude par rapport à cette annonce, tout nous est égal. C'est-à-dire, on n'attend pas grand-chose de ça. Il s'agit de trouver une autre formulation où le contenu va rester le même. Il n'y a pas de changement parce qu'il me semble que la France est un pays en crise stratégique en ce qui concerne sa politique en Afrique. C'est-à-dire elle a des problèmes d'adaptation aux réalités changeantes en Afrique et au monde. Surtout par rapport à la stratégie à mener ou bien à la politique à mener en Afrique. Donc, ce changement, comme vous le savez déjà, nous l'avons demandé. C'est-à-dire, en demandant à la France de quitter notre pays, le Mali, après certains constats qui étaient contraires au but officiellement annoncé par la France pour justifier sa présence au Mali. Donc, ça doit être quelque chose qui est pour nous déjà déjà révolu. Maintenant, je pense que ça, ce sera plutôt pour l'électorat français, pour les partenaires de la France en Europe et dans le monde, une manière de justifier jusqu'à présent sa présence militaire française en Afrique, ce qui, quelle que soit l'appellation, ne nous arrange pas, parce qu'on sait pourquoi ils sont là, depuis 60 ans.
D'accord.
Et sans pour autant trop traîner, je vous donne un petit exemple, que la France et l'Angleterre étant des anciens colonisateurs ici, depuis l'indépendance à aujourd'hui, l'Angleterre n'est intervenue militairement en Afrique qu'une seule fois, depuis l'indépendance des Africains, en Australie, une seule fois, et ça c'est pour le maintien de l'ordre. Mais la France est intervenue plus de 40 fois et c'est pour des coups d'État et des déstabilisations. Donc, faites l'analyse vous-même.
D'accord, je vois. Merci beaucoup pour votre réponse. Et le Mali, parlant de Mali, du Mali, effectivement, le Mali a été le premier pays à avoir rejeté avec force la présence militaire française. Et, oui. Et du coup, Bamako a donné en quelque sorte l'exemple aux pays voisins. Pourquoi le Mali? Comment expliqueriez-vous ce phénomène malien?
Merci beaucoup. Votre question elle est très profonde et elle est vraiment logiquement, on doit s'entendre telle question de quelqu'un qui connaît vraiment notre milieu et notre histoire. Donc en particulier le Mali, parce que la position géopolitique du Mali, est stratégiquement, c'est on peut dire le centre du Sahel, quoi qu'on dise, et les potentialités naturel du Mali font que depuis le temps de la colonisation et après la colonisation, le Mali n'a jamais été soumis. La preuve est que c'est le pays où la France a le plus peiné à instaurer sa domination coloniale. Si dans certains pays, il a fallu que 2-3 ans la France pour s'installer, il a fallu 27 ans pour que la France puisse plus ou moins se stabiliser comment stabiliser son pouvoir colonial ici en Afrique, surtout au Mali ici. Donc, cette particularité du Mali, ça vient de notre histoire aussi. N'oubliez pas que, je peux dire que après l'Égypte antique, pratiquement le Mali, c'est au Mali qui a eu l'empire le plus glorieux de l'histoire de l'Afrique, pratiquement. qui a le plus perduré et qui a jusqu'à présent, selon les analyses du Rockefeller Center, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, c'est Kwaku Musa. C'est le petit-fils de Sundiata Keita. Donc, ça, c'est l'histoire, on ne reste pas dans l'histoire, mais l'histoire, ça y aide beaucoup pour notre présent, pour notre futur. Et le Malien, naturellement, il vit de cette histoire et il vit, chaque fois qu'il est en contact avec des ennemis, il essaie de faire revivre ce passé glorieux et il préfère plutôt mourir très souvent, se sacrifier, que d'accepter certaines limites de dédain, d'arrogance qui caractérisent le comportement français et qui, en un seul mot, explique tout le mal que la France a en Afrique. C'est-à-dire une arrogance indescriptible, c'est-à-dire injustifiée et incompréhensible sur le plan politique. Donc, cette attitude de la part du Mali n'est pas surprenante pour la France, n'est pas surprenante pour des initiés des relations France-Mali depuis du temps colonial.
D'accord, je vois. Et en même temps, Paris laisse entendre être toujours intéressé par l'Afrique, malgré la fin de cette opération Barkhane. Comment la stratégie française en Afrique peut-elle évoluer selon vous?
Absolument. Merci beaucoup, Madame Lula. Et la France n'est pas seulement intéressée. Le cordon ombilical de la France se trouve ici, en Afrique.
D'accord.
Donc, ça veut dire que sans l'Afrique, vous savez, entre nous en France, on blague, on dit que sans A, Paris serait pris. Si vous enlevez le mot A là, du nom Paris, au lieu de Paris, ça sera pris. Pris en français, vous savez. Occupé, pris, comme ça a toujours été. La Première Guerre mondiale, on les a sauvés. On ne vous dira jamais ça dans l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Il n'y avait pas de soldats, c'était des Africains. Mais on ne les a même pas permis d'être présents lors des commémorations de la victoire. Et c'est un cas pareil aujourd'hui, comme on est en train de transformer l'histoire, par exemple, pour essayer de dénigrer, à rabaisser la valeur de la participation russe, sinon même soviétique, dans la victoire contre Hitler. Mais malheureusement pour eux, le monde moderne, avec les moyens de communication, font que ce n'est pas eux seuls qui savent faire prévaloir la vérité ou bien la vision. Donc, c'est pour vous dire finalement que, en fait, sans quitter votre thème, 2013, par exemple, tout le monde dit que la France est venue nous aider. Je vais vous dire, Madame Yula, que non, c'est ce qu'on appelle en diplomatie, la France s'est fait inviter. La France a créé, a semé le décor pour qu'on l'invite. D'ailleurs, l'invitation que fait Sissoko, notre premier ministre en ce moment, leur avait adressé, c'était pour un apport, un support aérien. On n'a pas besoin de support sur terre. Mais ils ont exigé à ce que c'est eux-mêmes finalement la deuxième option de cette demande. C'est Hollande même qui l'a écrit à travers son chancelier. Et ils ont même venu au Mali avant que ça ne soit signé par le côté malien. Donc c'est un montage pur et simple. Et c'est ce qui a abouti à ce que vous avez vu. C'est-à-dire le Mali a dit à la France de dégager. Parce que le terrorisme qui est là, c'est la France qui l'amène. Et quand on aura le temps, je pourrais vous démontrer. Et que les Français m'interpellent. Je suis prêt à sortir avec n'importe quel Français, à n'importe quel niveau, et les prouver avec aisance, avec les preuves à l'appui. D'ailleurs, c'est les mêmes preuves que notre Premier ministre est en train d'exiger au niveau des Nations Unies pour qu'on ait une session exceptionnelle, spéciale, pour qu'on étale toutes les preuves de ce que vaut la France en Afrique, ce que la France fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, la France ne veut pas, bien que toutes les puissances savent ce que la France fait ici réellement. Mais j'espère que, en fin de compte, la France va s'énerver et elle va accepter que finalement le Mali présente ses preuves. Et je suis sûr que le monde saura en ce moment qu'est-ce que la France fait ici, qu'est-ce qu'elle vaut et qu'est-ce qu'elle cherche ici.
C'est très intéressant. Et pensez-vous que c'est la politique considérée par certains comme néocoloniale qui pèse sur les Africains aujourd'hui et qui est la cause du sentiment du français grandissant chez les Africains?
Absolument. Parce que, Madame Yule, encore et plus, ce n'est pas un sentiment anti-français, mais c'est un sentiment anti... Vous savez, la France a une attitude d'arrogance coloniale, ou bien néocoloniale, comme beaucoup diraient. Mais la France a un problème, si je peux m'approfondir un peu, d'antagonisme cognitif. c'était russe. C'est-à-dire, la France, elle a oublié que la vieille politique qu'elle appliquait du temps du colonialisme ne peut plus aller avec la nouvelle génération, avec les nouvelles réalités géopolitiques. Parce qu'il y a de nouveaux acteurs maintenant, qui étaient les sujets de la France, mais qui ont plus de force même que la France aujourd'hui. Et ce que les Occidentaux en général ne comprennent pas, c'est que l'hégémonie occidentale va devenir très bientôt un souvenir. Je comprends. D'habitude, à la décomposition de chaque empire, c'est des tentatives de préservation, des ajustements, des trucs comme ça, on le comprend. Mais que les hauts fonctionnaires français ne comprennent pas ça, qu'ils ne parviennent pas à adapter leur politique en Afrique en fonction des réalités, pas ce qu'on dit, mais ce qui est, c'est ce qui me choque un peu, c'est ce qui me surprend. Quand je dis vraiment la France est en dérive stratégique en Afrique, il n'y a pas de sentiment anti-français. D'ailleurs, quand ils disent que c'est les Russes qui sont en train d'alimenter ces histoires-là, non, 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 non. Il ne faut pas qu'ils donnent des mérites à la Russie, bien même à l'Afrique, hein, qui ne mérite pas excusez-moi de la technologie. C'est-à-dire que ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ce n'est même pas l'Afrique qui fait qu'aujourd'hui la France est haïe. C'est vrai. Mais l'attitude de la France, l'attitude paternaliste de la France, l'arrogance incurable de la France, malgré ce qu'elle va vous dire à la télé, hein, les autorités françaises, c'est nous qui sommes là qui savons comment ça se fait, comment ils s'adressent à nos autorités et comment ils nous traitent et comment ils mentent au monde entier. Alors que sans l'Afrique, je vous le répète, la France n'aurait même pas existé en tant que puissance. Si la France a sa place dans les Nations Unies aujourd'hui, c'est à cause de deux facteurs. Sa présence de l'armement nucléaire et le fait qu'elle a en esclavage pratiquement, directement ou indirectement, une trentaine de pays africains. Donc, chaque puissance, quand elle a besoin de questions sérieuses, aux Nations Unies est obligée de coopérer avec la France parce qu'elle a cette masse d'esclaves, des pays esclaves, qu'on a besoin des voix. Et ces voix-là, vous avez, si ce n'est pas avec l'intervention du Mali, en octobre dernier, avec notre Premier ministre, Choguel Kogala Maïga, toutes nos questions passaient directement à la France. Nous, on était là comme des petits enfants, sous couvert de notre père ou bien de notre grand-père, la France. Mais c'est aberrant. On n'a pas de problème, je répète encore, avec la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Il y a un sentiment de réveil. Il y a un sentiment d'orgueil national, finalement. Il y a un sentiment de se faire prévaloir comme être humain. Il y a un sentiment de laisser comprendre à la France que sans nous, ils n'allaient pas vivre, littéralement. Madame, prenez l'exemple du franc CFA aujourd'hui. Sarkozy l'a dit, il a avoué. Jacques Chirac l'a dit. Le CFA, c'est l'arnaque. Là, j'accuse toute l'humanité. Parce que le franc CFA, aujourd'hui, à cause du franc CFA, on doit amener la France au tribunal. C'est de l'obscurité officialisée, légalisée. Parce que sans le franc CFA aujourd'hui, la France occuperait la 27e position. Elle vit littéralement de notre sang. Et malgré ça, elle veut nous faire savoir que nous, on a besoin d'elle. Que sans elle, nous ne pouvons rien. D'accord. Si sans toi, on ne peut rien, on te dit de dégager et tu ne veux pas dégager. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il n'y a pas de logique. Vous venez chez quelqu'un, vous voulez l'aider, et dit non, merci, je peux me débrouiller moi-même. Vous dites non, je vous oblige à accepter mon aide. Là, madame, il faut bien voir là, ce n'est pas une, cette personne n'est pas venue pour vous aider. Elle a d'autres ambitions cachées. Donc, c'est pour vous dire que la France, malgré ses histoires, comme vous l'avez bien remarqué, elle dit qu'elle ne va pas quitter, mais que c'est un repositionnement. Désormais, ils ne vont pas directement intervenir dans les conflits, mais ils sont là pour former les militaires, pour instruire, pour renseigner. Mais écoute, depuis 60 ans, ils n'ont jamais quitté la seule force colonisatrice. Mais montre-moi une seule armée où ils ont formé. La France ne va jamais former notre armée. Pourquoi? Parce qu'une armée puissante en Afrique, c'est le premier ennemi de la France. Toutes ces histoires de déstabilisation en Afrique, parce que plus nous on est faible, plus ils nous exploitent, plus ils nous imposent leurs conditions. Voici la politique de l'Occident à notre endroit. Voici pourquoi aujourd'hui tous les pays africains, sans que la Russie les fasse, ou quoi que ce soit, sont en train d'être attirés aujourd'hui vers la Russie. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays parmi ceux qui peuvent nous aider aujourd'hui, qui n'a pas colonisé, qui ne cherche pas à à exploiter ouvertement avec mépris et arrogance comme les Occidentaux dans l'ensemble, mais en particulier la France en Afrique. Voici tous les problèmes. Il ne faut pas qu'ils essaient de dire que la Russie n'a même pas ses moyens pour le moment d'envoyer toute l'Afrique avec ses désinformations, avec des trucs. Non. Mais c'est leur comportement qui vient de jouer à la faveur de la Russie. Parce que je vous dis aujourd'hui, hein, si les Français ne comprennent pas, je leur fais cadeau. Quoi qu'ils disent là, les agitations, au dernier village africain aujourd'hui, le monde, chacun est convaincu que seul avec la Russie, on peut s'en sortir, que seule la Russie coopère honnêtement à la base des coopérations gagnant-gagnant avec les pays africains. Voici l'avantage que la Russie a pour eux. Malgré leurs agitements qu'ils aboient, mais s'ils ne changent pas d'attitude et de stratégie, je vous assure, madame, qu'ils vont amener cette lâchette toute l'Afrique à la Russie, sans même que la Russie ne fasse des propositions.
Ah, c'est très intéressant. Merci pour vos analyses. Et vu qu'on a déjà parlé un peu de la Russie, ma question suivante, c'est sur les appels téléphoniques entre Poutine et Guaita qui se multiplient dernièrement. Donc, comment cela est perçu au Mali? Et vous voyez cela comme un rapprochement?
Absolument, parce que, vous savez, quand ça ne va pas, chez vous, chez moi, chez n'importe quelle personne, et alors que vous avez des choix d'aide à demander, vous adressez à la personne que vous croyez qui peut vous venir en aide. Donc, vous n'allez pas vous approcher à quelqu'un avec qui vous avez déjà tenté de vous sauver et il vous a noyé. Une fois, deux fois, trois fois. Comme Einstein me disait, non? Vous faites quelque chose mille fois, ça ne réussit pas sans changer de manière de faire la mille et unième fois. Si vous êtes intelligent, vous devez comprendre, ça ne va pas réussir. C'est ça notre cas avec l'Occident. Donc, chaque appel téléphonique avec Poutine, avec la Russie, avec notre président, ça nous donne de l'espoir, ça fait notre fierté et on en débat chaque fois. Moi, y compris, comme signe de rapprochement que nous cherchons. D'ailleurs, pour encore élucider ce passage, je vais vous dire que contrairement aux Occidentaux, nous, on a fait plus de 5 ans en train de réclamer la Russie. Et ne s'était pas précipité. C'est nous qui avons demandé. On a ramassé ici plus de 5 millions de signatures en pétition pour remettre à l'ambassade de la Russie pour réclamer que la Russie vienne. Contrairement à eux qui viennent s'imposer des forces à travers des forces corrompues politiques ici, on fait des petits coups d'État là-bas, on fait des petites diversions. Vos collègues, entre guillemets, je ne peux même pas les appeler médias, ils font une deux semaines en train de dénigrer un Africain là-bas et en train de flatter l'autre, et puis la population, à cause de son ignorance, se laisse aller. C'est comme ça qu'ils jouent avec nous, mais malheureusement, c'est pas en passé. Donc, chaque appel téléphonique avec le président russe, pour nous, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne de la fierté, ça nous donne du courage, en réalité. Parce que, contrairement à beaucoup de nos collègues africains qui disent que non, on ne va pas quitter la domination occidentale pour aller nous soutenir à la Russie, il y a en géopolitique, il n'y a pas un seul pays qui peut faire chemin seul. Ça n'existe pas. Tout le monde va avec quelqu'un. Seulement, il faut trouver une niche de coopération où il peut satisfaire tes besoins. Nous savons qu'avec l'Occident, nos espoirs sont déjà épuisés. Ça, on l'a déjà su depuis des centaines d'années ensemble. Et nous faisons que régresser et il ne faut que se développer. Donc il est temps de divorcer et tenter un autre mariage.
Je vois, merci beaucoup. Et sur fond de la dernière visite d'amitié et de travail du président de transition burkinabé au Mali, quels sont les enjeux géopolitiques pour la région?
C'est une visite à laquelle on s'attendait. Comme vous l'avez vu, ça a été une visite éclair. C'était une visite d'amitié. D'ailleurs, avant ça, on n'a pas eu la chance de faire avec Damiba. On a eu déjà fait des opérations ensemble, avant même qu'il ne vienne au Mali, même avant de signer, parce qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes ennuis. La France a essayé d'instrumentaliser ce pays à travers Damiba. Là, d'ailleurs, c'est ce qui a été la raison que la population s'est levée pour le chasser. Traoré, sachant que c'est la population qui l'a mis là-bas, et comme avec Damiba et avec Kabore et les autres, si jamais il ne prend pas le droit chemin, il va connaître le même sort. Et on l'a exigé littéralement, si vous vous rappelez la mille, on a dit, vous faites comme Assimi Goïta. Ce n'est pas parce qu'Assimi est beau, ou bien il est le plus intelligent ou quoi. Seulement qu'il est sur un chemin que nous, les Africains, pensons peut mener à notre bonheur, à notre bien-être finalement. et au regain de notre fierté nationale. Donc c'était une visite d'échange, comment lutter contre le terrorisme maintenant, pour comment alléger la vie de nos populations locales là-bas, comment nous débarrasser de tout ça. Mais pour les Burkinais, on a jusqu'à présent des problèmes, comme chez nous au Mali, mais moins. C'est la présence de la France militaire au Burkina. Mais je vous avoue que dans les quelques mois à venir, sans trop dévoiler de secrets, le Burkina va trouver des solutions à ça. Parce que tant que la France est là-bas, le terrorisme ne va pas finir, parce que le terrorisme, c'est une manipulation de la France pour déstabiliser le pays en fond. C'est mieux nous exploiter afin de nous soumettre, c'est tout. Quelqu'un peut penser que c'est du nationalisme, c'est du non, mes frères, mes sœurs, du monde entier, comprenez, et vous le savez très bien, ceux qui sont impliqués dans la politique. Malheureusement, c'est cynique, mais telle est la réalité. Donc, géopolitiquement, dans la sous-région, ça veut dire que l'Occident va encore essayer davantage de nous déstabiliser. Au lieu de changer de stratégie d'approche, au lieu de comprendre que ce n'est pas des choses personnelles, seulement cette attitude à l'endroit de l'Occident, à travers la France, en Afrique du Sud, en particulier dans cette zone qui s'appelle le Sahel, c'est à cause de leur conduite, de leur comportement. Il s'agit de changer cette approche, ce comportement. Il s'agit de finalement faire le choix. Il ne s'agit pas de dénoncer publiquement à la télé que vous êtes là pour lutter contre les djihadistes, mais en même temps armer les djihadistes, les instrumentaliser et les mettre, les fournir des armes, les entraîner et les informer, c'est-à-dire les donner des informations. Ça, on est au courant. Et là, ça ne veut pas aller. Et cette attitude, parce que d'ailleurs, pour encore revenir un peu en arrière, vous avez parlé tout de suite de la décision de la France de mettre fin à Barkhane officiellement, mais ils vont dire qu'ils vont se repositionner. Mais écoutez, si la France voulait quitter, vous voyez, il y a 3 semaines, il y a un bateau, un porte-avions français qui s'est débarqué aux abords d'Abidjan, avec des chars, avec des équipements, soi-disant, pour la sécurité maritime. Pour quelqu'un qui veut quitter une zone, pourquoi un porte-avions amène encore des armes avec des équipements et puis les militaires? Faut pas qu'il essaie d'infantiliser les gens. Je vous assure, madame, que la France ne va pas quitter ici en paix. Sinon, en réalité, on ne les chasse pas, on dit seulement, voici nos conditions. Respecter les conditions, gagnant-gagnant. On ne peut plus se faire laisser léser par la France ou l'Occident, se faire prendre comme des enfants. Parce qu'un Africain, pour eux, je ne sais pas, du racisme ou quoi, hein, mais il faut qu'on apprenne maintenant à se parler ces mots-là, sans se gêner, à se regarder dans les yeux. Parce qu'en essayant de mettre un tabou là-dessus, là, ça ne va pas enlever le problème. Alors que le problème est là et puis il dérange ce problème. Donc, c'est pour dire que stratégiquement, les Africains ne doivent pas dormir. Ça, je vous le dis. Parce que l'Occident, l'Europe, en particulier la France, vit de nous. Donc, pour la France, quitter l'Afrique, ça veut dire littéralement mourir. Parce que la France perd de trop en quittant l'Afrique. C'est pour cela, depuis l'année jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais quitté militairement. Et en paix, elle ne va jamais quitter d'elle-même. Ça veut dire de créer des conditions pour qu'elle quitte. Et surtout aujourd'hui, avec ce changement géopolitique, c'est la scène internationale, avec le problème ukrainien, et tout le mal que ça leur a amené avec la crise de gaz avec la Russie, qui ne peut pas tenir, et ils n'ont pas d'autres sources pour compenser les pertes incombées par cette crise. Et même ils ont été manipulés par les États-Unis, mais ça c'est une autre thématique. Donc, le seul recours qui leur reste maintenant, c'est nous, qui sommes habitués à exploiter, à manipuler, à voler à ciel ouvert, et toute l'humanité c'était. Mais nous, désormais, on est prêts à tout, mais désormais pour nous défendre, et on va le faire. Tant qu'il y a un seul Malien ou Africain qui va vivre encore, et comme Macron l'a dit très récemment, il dit que non, c'est le plan négatif qu'on commence à aller... Non. On essaie de sensibiliser la population jusqu'au dernier confin pour les expliquer quel pays réellement peut nous aider, quel pays est ami, pas dans la bouche, pas parce qu'on est habitué, parce que l'Africain vit ce qu'on appelle le syndrome de Saint-Stagol. Vous comprenez très bien. Avec l'otage perdu avec son geôlier, finalement, il commence à voir de l'amour avec... Donc, c'est l'histoire avec la France. Si je pouvais vous dire tout ce que la France connaît ici, vous allez comprendre que ce n'est pas parce qu'il s'appelle France, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Européen, C'est pourquoi on n'a pas telle attitude à l'endroit de la Russie. Ils sont tous blancs là-bas. Pourquoi on n'a pas cette attitude à l'endroit des États-Unis, à l'endroit de qui, mais particulièrement à l'endroit de la France. C'est à cause de leur attitude. Il faut qu'ils disent ça aux gens et ne continuent pas à mentir. Donc, le rapprochement encore France, Mali, Burkina Faso, c'est ce que nous cherchons. Au jour d'aujourd'hui, le Niger est certainement perdu pour nous, mais je sais que la population va résoudre leur compte. La Côte d'Ivoire, la même chose. Et aussi, ils sont en train de s'appuyer sur ce pays maintenant et ils ne vont pas laisser le Mali et le Burkina. Tant qu'on ne cherche pas de bonnes coopérations pour nous défendre. Parce que leur sort se décide littéralement en Afrique.
Oui, je vois, je comprends. Bah, c'est logique. Et en revenant au Sahel, comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait rendre la lutte antiterroriste efficace selon vous?
Merci. Ça, c'est la mère des questions, madame.
Merci.
Et en fait, ça ne sera pas une solution très rapide. Parce que pour comprendre un peu la scène, il faut comprendre les intérêts qui sont interconnectés ici. Depuis les narcotrafiquants, trafic de tout genre, le terrorisme n'est que la couverture pour ça. Parce que le terrorisme, c'est pour nettoyer le terrain. Parce que vous comprenez, c'est des espaces très immenses, très parsemés, très moins peuplés. Donc, tu peux aisément faire n'importe quoi là-bas sans être vu ou soupçonné par quelqu'un. Et du point de vue stratégique et du point de vue recherche naturelle, les puissances occidentales, en particulier la France surtout, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique a été donnée à la France par l'Occident, au temps de la guerre froide. La seule condition était que la France devait tout faire pour que la Russie ne puisse pas s'installer bien en Afrique. Et après ça, tout ce que la France aurait fait à l'Afrique serait pardonné par l'Occident, malheureusement. C'était ça notre sort décidé par l'Occident. D'où aujourd'hui cet antagonisme et ce mépris, ou bien ce doute entre eux et nous. Ce n'est pas du fait de leur couleur ou de leur position géographique, mais du fait de leur conduite, des actes qu'ils ont posés ici. Donc, quand vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour la stabilisation du Sahel? Ça va prendre du temps, mais il faut que les Sahéliens s'assument eux-mêmes, c'est-à-dire nous. Et là, pour cela, on a beaucoup d'obstacles, d'ordre objectif et d'ordre personnel. Et par exemple, pour que nous menions une guerre contre ce terrorisme, qui puisse venir à bout de ce terrorisme, il faut que nos pays se donnent la main. Parce qu'il n'y a aucun pays dans la sous-région aujourd'hui qui, à lui seul, peut venir à bout de ces gens-là. Parce que tellement le territoire est vaste et les moyens financiers sont limités. Mais le problème à cette possibilité de coalition, d'union entre nos pays, est le fait que la majorité de ces pays, malheureusement, se trouvent sous domination française, sur le coupole français. Et leur politique est déterminée par la France. Leurs leaders sont choisis par la France. Là-bas, en fait, c'est des relais français. Et tout ce qui peut aller à l'encontre des intérêts français, ils vont les bloquer. Alors que nous, et les Français, excusez-moi, aujourd'hui, c'est comme la vie et la mort. C'est l'un qui peut gagner, malheureusement. Tant que la France n'a pas changé d'attitude, tant qu'elle n'a pas elle ne s'est pas guérie de cette dérive stratégique ou bien de cette démence stratégique. Oui, je fais sciemment parce que ça me choque que la France n'ait pas compris jusqu'à présent que par les méthodes machiavélistes qu'elle a l'habitude toujours d'utiliser à notre endroit, par des méthodes de brutalité, de condescendance, d'arrogance, il ne peut plus dissuader l'Africain, il ne peut plus vexer l'Africain. Il s'agit maintenant de sortir maintenant d'égal en égal en adulte séparé. Prenons l'exemple, par exemple. Vous voulez la stabilité du Sahel. On a besoin de se donner la main. Mais disons aujourd'hui, on doit faire des plans. La première chose qu'on va demander, à ce que la France dégage. Parce que les bases françaises sont ici-là, c'est pour nous déstabiliser. Parce que nous déstabiliser, nous devenons très dociles. Quand nous devenons dociles, la France continue son jeu comme depuis il y a plus de 60 ans. C'est-à-dire exploiter nos ressources sans rien nous donner et nous laisser les déchets ici. Vous voyez maintenant avec cette histoire de COP27 en Égypte maintenant là. Mais ça c'est de leur langue à l'endroit de l'Afrique. Mais personne n'en parle. Heureusement que nos papettes, président africain entre guillemets, commence maintenant à oser le dire ouvertement. Vous êtes développé pendant des millénaires en utilisant ce même carbone, et aujourd'hui vous nous privez et vous ne donnez rien en compensation. Je comprends, la géopolitique, le droit international, ça n'a jamais été quelque chose d'honnête, c'est les relations de force, je comprends. Mais qu'on le dise au moins, qu'on ne nous embrouille pas, qu'on ne dise pas au blanc, au noir, ça ne peut pas aller. Donc, supposons que nous voulons la sécurité dans le Sahel. Nous voulons que nous nous unissions pour mener cette lutte-là. Vous allez au Sénégal, c'est la France qui est là, à 100%. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la France qui est là. Vous allez au Niger, je n'en parle même pas. Ça, c'est leur bébé préféré maintenant. Au Tchad, on a même tué un père pour donner le pouvoir à un fils adoptif. Donc, et où est-ce qu'on va toucher encore? Qui va rester? Le Mali, parce que même avec le Burkina, il faut attendre parce qu'il y a tellement de pression sur ce jeune président aujourd'hui. Les États-Unis, la semaine dernière, que la semaine passée. Et d'ailleurs, Mme Nguyen dit quelque chose que les Africains ne savent pas et que j'ai beaucoup remarqué lors des pomarans de la révolution en Ukraine et puis de la révolution de la Géorgie. C'est la même peste-là qui a fait la tournée il y a 2 semaines en Afrique ici, Nulan, la fameuse Nulan. Et partout où elle passe, après, c'est des révolutions. Parce que la France perd la main maintenant. Maintenant, ils veulent remplacer la France. Et là, dans mes interventions, je les laisse toujours savoir. Nous, on fait la part des choses. Si vous voulez venir ici, essayez de provoquer des révolutions ici. C'est pas, ce sera votre Afghanistan. Au contraire, nous, on n'a pas de problème avec les Blancs, on a des problèmes avec la France, avec la politique de la France. Si vous, Américains, vous voulez venir ici, la présence de la Russie ici n'est aucun problème. On a le droit de coopérer comme vous, coopérez entre vous et la Russie, même malgré les problèmes avec l'Ukraine aujourd'hui. La Russie et les États-Unis sont en train de mener des propagandes par rapport au nucléaire. Et ça, c'est la géopolitique. Mais pour quand nous devons être les orphelins de la géopolitique. Non, on n'est pas prêts. Maintenant, le Sahel, ça va prendre du temps. Le Sahel, ça va prendre du courage. Et le Sahel, surtout, ça va prendre du travail médiatique, du travail de sensibilisation de la population. Parce qu'aujourd'hui, pour ramener la paix chez nous, j'ai plus d'espoir sur la population, sur l'éveil de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est la population qui fait la politique chez nous. C'est la population qui empêche l'Occident, qui freine l'Occident dans beaucoup de ses lèvres. Ni que la population se nuit ici, ils auraient éliminé déjà tous ces présidents. C'est ce qu'ils ont toujours fait, parce que la population était dans l'obscurité. Elle pensait qu'elle pouvait rester à l'écart et que les dirigeants pouvaient faire quoi que ce soit devant les Occidentaux. Mais ils n'avaient pas compris ce jeu d'abord. Mais maintenant, là, que la population comprend, commence à comprendre, comme Macron a dit, à au moins se reconnaître, c'est fait. Nous continuons à laisser comprendre à cette population pourquoi nous menons cette lutte de libération de chez nous. Et parce que ceux qui sont en train de faire ces conneries là-bas, oui, il y a des mercenaires étrangers, il y a des rebelles afghans, parmi les leaders, il y a des Pakistanais, il y a des Libyens, il y a des un peu partout. Mais la grande majorité des soldats de l'île, c'est des locaux. Ils ont des parents ici, ils ont des proches ici. Il s'agit de leur expliquer, d'essayer de les atteindre, de leur expliquer le pourquoi du manque de perspective dans cette ligne. C'est-à-dire, il faut s'arranger avec les siens. Aujourd'hui, à cause de 200 dollars, parce que ça ne va pas, faut pas mettre les troupes. Ça ne va rien servir. D'ailleurs, ceux qui te font ça demain, ils vont te jeter comme de la pourriture. C'est-à-dire qu'on a un travail de sensibilisation à faire, mais toute solution qui peut stabiliser chez nous ici, ça doit venir de nous-mêmes. Nous devons montrer aux déstabilisateurs qui sont l'Occident, je répète encore, les grandes corporations occidentales pour lesquelles les gouvernements conséquents travaillent. C'est-à-dire, le système capitaliste, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer. Si la France est là, c'est parce que quelques grandes sociétés françaises ont des intérêts ici, en uranium, en lithium, et en pétrole, en gaz et tout le reste. Même les États-Unis aujourd'hui, leur premier intérêt au Mali, c'est l'uranium. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est pas autant le pétrole potentiellement qui est là-bas ou bien les gaz maliens, mais c'est surtout l'uranium. La France est là aujourd'hui, elle se glorifie, la première puissance nucléaire de l'Europe, elle a 56 stations nucléaires, mais l'alimentation vient d'où? Du Niger, qui est le dernier pays sur la classification de la Banque mondiale, mais 35% de l'uranium français vient de là-bas. Mais demandez-moi, Madame Lila, combien les Nigériens gagnent de cela? La France fait pratiquement 6 000 milliards par an d'uranium au Niger. Mais le Niger n'en gagne que 200 milliards. C'est ça notre problème. Et c'est ces mêmes France-là et ces mêmes sociétés qui sont intéressées à l'instabilité chez nous. Donc pour résoudre le problème, il faut faire les bonnes diagnoses. Les bonnes diagnoses est que désormais, on doit exposer ça d'abord pour que le monde comprenne ce qui se passe. Sensibiliser nos populations, faire de notre mieux pour qu'il y ait le maximum de coopération entre ces pays. C'est en quoi faisant? En créant de telles atmosphères que tout dirigeant africain qui viendrait dans ces pays et qui ne va pas prendre la voie tracée par le peuple doit savoir que le lendemain, il va quitter. Comme on est en train de le faire au Mali, à des reprises, quand on a fait le coup d'État, ça n'a pas marché, on l'a corrigé, comme le Burkina est en train de montrer. Contrairement à ce que vous, en Europe, là-bas, vous pouvez penser de cela, que la seule solution, malheureusement, c'est nous. Parce que si vous appelez chez nous démocratie, elle n'a jamais été ici. Nous savons que nos dirigeants avaient toujours été votés à l'avance en France. Ce que la France désignait et que RFI, quelques minutes après les élections, annonçait comme gagnant, c'est celui qui gagnait. Malheureusement pour eux, on a ouvert déjà les yeux, on a vu ces yeux. D'où la seule voie qui est laissée à l'Africain, c'est ce coup d'État. Parce que très souvent, nos présidents sont manipulés, parfois même menacés de mort par les Occidentaux, surtout la France. Donc, pour changer de tel président, ce n'est pas par les voies des élus. Voici la seule solution pour sortir le Sahel. Et vu l'immensité des ressources du Sahel, Madame Lula, je suis sûr que c'est des choses qui vont prendre des générations. Parce que la géopolitique mondiale est telle qu'aujourd'hui, c'est une zone qui prend tellement d'ampleur, tellement d'importance pour toutes les puissances du monde. Et vous savez, quand les intérêts des grands et des big heads sont mélangés dans un endroit comme ça, la stabilité est très difficile. L'exemple du Moyen-Orient, l'exemple du Golfe de Guinée et surtout le Sahel. Donc, on va mener une politique d'adaptation pour le moment et faire notre maximum, sensibiliser la population, faire notre maximum pour finalement imposer, je dirais, pas élire, mais imposer des présidents patriotes. Parce que c'est par ce seul moyen qu'on pourra créer une possible coopération entre nos pays qui finalement pourrait créer une certaine force plus ou moins acceptable et respectable par les puissances occidentales qui ont leur intérêt ici et qui feront tout pour nous déstabiliser, pour mieux profiter.
Oui, je vous remercie beaucoup. Effectivement, la situation au Sahel est très compliquée en fait. Et c'est bien que la population ait sa voix et elle peut jouer son rôle. Donc c'est, oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Il y a aussi un petit sujet d'actualité qu'on voudrait savoir, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire. En fait, la Centrafrique a mis fin au statut diplomatique privilégié de l'ambassadeur français. Le représentant de Paris a été accusé de manquer de respect au chef de l'État et de diffuser de la désinformation. Et donc, y a-t-il quelque chose derrière cette démarche qui va aller plus loin ou qu'en pensez-vous de cette situation, de cette démarche?
Oui, et en fait, et partout où vous entendez la France en Afrique, je vais vous dire, Madame Julia, c'est comme dans les temps, en Russie, dans l'histoire, on a vu, il y avait les batraquis, c'est des paysans sans droit.
Oui.
Et bon, nous restons les batraquis de la France. pour vous comprendre, si la France nous tient seulement pour le manger, c'est-à-dire, on a droit seulement à manger suffisamment pour pouvoir travailler au champ. Ça, si j'essaie un peu d'ironiser, c'est comme ça que je dirais. Et particulièrement, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Centrafrique, la France n'a jamais été plus arrogante en Afrique qu'en Centrafrique. Il y a des choses même que je ne peux même pas dire publiquement ce que la France s'est permis en Centrafrique. D'ailleurs, avant le Niger, c'était la Centrafrique qui fournissait tout en uranium à la France. Et le jour où Bokassa a osé demander un franc pour son uranium, on l'a humilié, on l'a assassiné, on l'a tué de la façon la plus incroyable. Donc, c'est pour pas que cela vous surprenne que l'ambassadeur de la France puisse se comporter ainsi à Bangui. Mais ils sont habitués. Parce que Bali, c'est plus chez eux que Paris même. C'est comment un sale, bon, excusez-moi, bon, disons africain, disons, mais pas comme ça qu'ils disent, vous comprenez, ose appeler les riches et ose leur dicter. Alors que chaque fois, quand ils parlaient l'anglais, oui, monsieur, oui, le français, je vous dis, hein, ça va vous faire. Ça va vous croire un peu ridicule, mais c'est ça littéralement le mental du français. Et ouais, c'est ça le problème du français avec nous les Africains. Le français est, je vais vous dire, comment on dit ça, le français est malade, cette arrogance-là, elle est génétique, c'est là. Mm-hmm. On fait cette injection au français à la naissance. Et même au risque même de son péril. Pourquoi? Parce que tellement cette arrogance est ancrée dans leur sang, et vous venez de me donner un exemple, que même devant la perte de son bien-être, parce que perdre l'Afrique pour la France, c'est la perte. Je vous assure que si les pays africains, comme le président Russe a l'habitude de dire, Poutine, si les pays africains commençaient à comprendre que la tête là, c'est pas pour porter des fardeaux, mais pour réfléchir, et qu'ils se donnaient la main, et qu'ils se faisaient respecter, c'était les Occidentaux qui allaient mourir dans l'océan pour venir chercher du boulot en Afrique, ici, et non le contraire. Et je vous l'assure, demande à tout économiste, vu notre potentialité, même non exploité d'abord, vu que nous, aujourd'hui, nous avons 62% des terres arabes. Si ce n'est pas cette partie-là de l'ex-Union soviétique, le reste, là, ne vit que ne font que parasiter sur nous. Donc, cette scène-là encore, et d'ailleurs, si vous avez suivi, à cause de ces perturbations, ils ont déjà tenté un coup d'État contre Théodora. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas voulu encore sortir publiquement par rapport à ça, mais ça c'est les vieilles pratiques de la France. Donc, et je pense que Théodora même a été un peu modeste dans ses contre-mesures. Il devait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire chasser tout ce qui est français, et comme Kagame l'a fait. Mais voyez aujourd'hui comment il est en train de jouer à côté de Kagame. Macron est venu, la première chose qu'il a faite, il est venu s'excuser, il est venu reconnaître les bavures de la France en 94. Il a imposé une Rwandaise à la tête de la France-Afrique, c'est pour faire revenir le Rwanda dans la zone française. Et vous savez, ces gens, ils ne comprennent pas l'humanité, ils ne comprennent pas le respect, ils ne reconnaissent que la force. C'est des gens qui sont méprisants à notre endroit. Vous savez, c'est des gens qui ont comme des complexes d'hybris à l'endroit des Africains. Et il faut qu'on corrige ça. Donc, tout ce que vous venez de demander par rapport à cette entreprise, je mets ça dans un seul lot. C'est-à-dire les dernières agitations de l'animal mourant. Mais qui ne reste même pas qu'il est en train de mourir, malheureusement. Et ça, c'est le cas de la France. Au lieu de continuer sur cette voie, la France devait se remettre le plus vite possible, présenter des excuses, accepter le partenariat d'égal à égal, psychologiquement d'abord. Je ne parle pas de business, hein, parce que le français a du mal à accepter dans sa tête qu'il doit s'asseoir d'égal à égal, débattre, négocier ce qui appartient à l'Africain. Parce que et l'Africain, et sa terre et son pays lui a toujours appartenu. Donc prétendre à ça, pour la France, c'est déjà comme lui manquer du respect. Littéralement, psychologiquement, si vous voulez comprendre, vous voulez rentrer dans la tête d'un dirigeant français, c'est comme ça qu'il résonne à notre endroit. Et c'est de là que viennent les problèmes. Et j'ai oublié qu'on a fait les mêmes universités avec eux là-bas, qu'on est décomplexés, que plein d'entre eux sont au pouvoir, on se connaît en Afrique ensemble, et qu'on est sorti même meilleur des promotions dont ils faisaient partie. Donc ce complexe-là, cette génération-là, c'est fini. Donc ces remèdes ne marchent plus. Et je vais vous dire qu'avec la Centrafrique, avec déjà la fin du mandat de Théodora, la France est en train de préparer des nouveaux troubles que nos camarades centrafricains. Heureusement, on échange, on a beaucoup de contacts, on prend toutes les mesures. Et vos histoires de démocratie que vous dites là, comme Poutine a l'habitude de dire, chaque peuple a sa démocratie. Et il n'y a pas de démocratie standard, parce que si vous prenez la démocratie comme telle et qu'on va dans chaque pays occidental, croyez-moi, il y a moins de démocratie là-bas que les pays qui sont souvent dictatoriaux. Si tu prends, parce que c'est des pays qui sont contrôlés par les grandes agglomérations, par des corporations, c'est la corporatocratie en réalité. Et ça ne peut pas marcher dans nos pays pauvres où on a besoin de plus de socialisme, c'est-à-dire de plus de partage malheureusement, pour que tous puissent survivre au moins. Donc il ne faut pas imposer des valeurs ce qui est bien pour, comme on dit, ce qui est bien pour un Allemand, c'est la mort pour un Russe, comme on dit là-bas. Donc c'est la même chose chez nous. Ce qui est bien peut-être pour vous, les Européens, c'est la mort pour nous, les Africains, et vice-versa. Donc laissez chacun avec sa culture, mais seulement avec le minimum de conditions qui puissent permettre l'épanouissement de l'être humain, le respect, comme on dit ça, de l'attitude de tout un chacun, et le monde va vivre en paix. Malheureusement, c'est à quoi je ne crois pas.
Merci à Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, enseignant-chercheur au Mali. Zone de contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, nous nous retrouverons très bientôt sur les ondes de Spoutnik Afrique pour un nouveau numéro. Moi, Anthony Lefebvre, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.